Séquence Midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre magazine d'actualité locale. Aujourd'hui, on vous parle du festival Accor. Vous saurez tout sur la programmation et sur les envies de celles et ceux qui l'organisent cette année. On vous donnera aussi quelques bons plans sortis, des recommandations musicales. Mais tout de suite, on parle école, scolarité, parce qu'il y a une nouvelle sectorisation qui se profile à Poitiers. Pour en parler, on accueille Hélène Pommier, qui est adjointe à l'éducation pour la ville de Poitiers. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, quel est le principal objectif de cette nouvelle sectorisation scolaire à Poitiers ?
Alors, le principal objectif, c'est d'homogénéiser le nombre d'enfants par classe et par école sur la ville de Poitiers, parce qu'il y a des inégalités territoriales avec des écoles fortement en tension, ou des niveaux à l'intérieur des écoles fortement en tension, et inversement, des classes ou des écoles qui ne sont pas remplies.
Et donc, comment vous avez fait pour réfléchir ce grand chamboulement? Parce que ce n'est pas tous les ans qu'on fait une nouvelle sectorisation.
Oui, on reviendra sur le terme de grand chamboulement, parce qu'en fait, pour les enfants scolarisés aujourd'hui, ça ne va rien changer. C'est pour les arrivants. Hein. Donc, on a travaillé avec un cabinet sur une étude démographique sur l'évolution des effectifs dans les 12 années à venir à Poitiers. Et contrairement à ce qui se passe dans le département et au niveau national, Poitiers n'est pas une ville qui voit sa population baisser. Et un des résultats moyens de l'étude, hein, dans un des scénarios moyens, on est à plus 400 enfants ne pouvant pas être accueillis dans la ville de Poitiers si on ne fait rien d'ici 2035. Donc il faut prendre des décisions, et un des premiers leviers, celui qui est enclenchable à court terme, c'est la sectorisation.
Et alors, il y a aussi plein de questions qui se posent quand on décide de redéfinir un secteur. C'est aussi la question de la mixité sociale.
Tout à
comment
fait.
On arrive à mélanger un petit peu tous ces poids de vin, poids de vin.
Alors, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Hein. Mais merci de me poser la question, parce qu'en fait, il y avait deux priorités qu'on avait données au cabinet qui a travaillé sur cette étude. C'était favoriser la mixité sociale, c'est pas faire de la mixité sociale. On peut pas déplacer des gens comme ça, quels qu'ils soient, et plus particulièrement des enfants, pour avoir de la mixité sociale. Il y a aussi les lieux d'habitation, et chez la plupart des familles, la question essentielle, c'est la proximité avec l'école. On en y reviendra plus tard. Et le deuxième principe qu'on voulait dans ce travail, c'était la co-construction avec les familles, parce que pour rendre une nouvelle sectorisation acceptable, il faut travailler avec les gens. Et ce sont les premiers usagers et usagères du territoire. Donc on a fait plus de 30 ateliers avec les familles et les directions d'école, les maisons de quartier, puisque l'étude porte aussi sur l'extrascolaire et le périscolaire.
Justement, comment ces familles ont concrètement pu être impliquées dans ce processus ?
Eh bien, nous sommes arrivés... Alors d'abord, il y a eu une phase d'information, hein, et de recueil des pratiques et des usages par rapport aux inscriptions scolaires, par rapport au trajet école-maison, etc., etc. Par rapport au périscolaire aussi, les inscriptions périscolaires, la pause méridienne, etc., etc. Puis ensuite, nous sommes venus avec des pré-découpages et, vous savez, redessiner des secteurs. C'est, dans une ville comme Poitiers, c'est pas facile parce qu'on a une petite topographie contraignante, vous imaginez bien. Et de même des quartiers qui se côtoient et qui n'interagissent pas forcément. Et donc, les parents sont venus avec des... Quand on faisait, par exemple, sur le Pont-Neuf ou sur les Trois Cités, des parents qui nous indiquaient mettre cette rue dans ce secteur, c'est pas judicieux parce qu'il faudra... Enfin, même si les services connaissent bien Poitiers, je connais bien Poitiers et les autres élus connaissent bien Poitiers, les élus qui ont travaillé, on ne peut pas avoir une vue sur toutes les rues, quoi.
Et alors justement, il y a des quartiers qui gagnent en population, les Couronneries, et d'autres qui perdent. Alors comment on arrive à rééquilibrer tout ça ?
Alors d'autres qui perdent, on ne peut pas dire ça. Il y en a un qui va, un quartier qui va voir sa population scolaire baisser, c'est le Pont-Neuf, et de manière assez légère. Donc quand vous avez comme ça un quartier central qui perd de la population, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a étendu un petit peu sur le bas du centre-ville, le bas de la rue de la Cathédrale, un petit peu sur la Gibauderie, un petit peu sur les Trois Cités, un petit peu, pour qu'on puisse continuer à remplir les écoles, les deux écoles maternelles et l'école Coligny-Cornet, parce que sinon on ferme des classes aussi, vous voyez, on ne peut pas avoir un quartier sans école de proximité, c'est un peu difficile, quoi. Et donc on l'a étendu pour donc ne pas faire de fermeture de classe, et puis pour désengorger les quartiers qui sont autour du Pont-Neuf, quoi. qui est un quartier central. Donc
et
ça
aux couronneries, l'idée, c'est carrément de créer une nouvelle école.
Bah, l'idée, c'est la nécessité, effectivement, hein, puisque les couronneries est un des quartiers qui voit sa population vraiment exploser, la population scolaire. Hein. Ça s'explique de différentes manières, hein, mais notamment par... c'est des grands logements, les couronneries ont un peu plus de 50 ans, donc des grands T4, T5 qui étaient occupés par aujourd'hui des personnes vieillissantes et qui quittent ces appartements. Donc, on ne va pas les redonner à des couples, ces appartements. Hein. Donc, les bailleurs sociaux vont redonner à des familles avec de nombreux enfants. Ben, bref, c'est un quartier où il y a plus de 10 000 habitants et effectivement, il y a une hausse très nette.
Et alors, comment ce projet va se mettre en place? À quel horizon?
Alors, la nouvelle sectorisation, elle va être mise en place en septembre 2025, là. Donc, on verra les effets petit à petit, puisqu'en fait, ça ne concerne que les nouveaux enfants inscrits et qui n'ont pas de fratrie à l'école. Hein, parce que quand on a des frères et sœurs qui sont déjà scolarisés dans une école, ben on permet aux parents que tous les enfants soient inscrits dans la même école. Donc voilà. Voilà ce que je peux en dire.
Et pour la nouvelle école
Pour la nouvelle école, c'est d'ici 5 ans. Mais on est déjà au pas de charge pour l'acquisition du terrain et pour le projet avec l'éducation nationale. On va aller, je pense, un peu plus vite. Il est même possible qu'on mette entre 4 et 5 ans. Parce que ce qui sont des temps
courts.
Un temps court ouais,
pour une construction.
Ouais, pour faire pousser une école. Ouais.
Et justement, pour les nouvelles inscriptions, alors ça va se faire petit à petit. Est-ce qu'il va y avoir des changements aussi pour les parents qui inscrivent les enfants?
Alors, j'allais dire oui et non. Non, parce que il suffit d'aller aux inscriptions scolaires à la ville de Poitiers ou s'inscrire sur Internet. Et la règle reste, je vais dans l'école qui est la plus proche de mon domicile. Ça, c'est la règle. La modification la plus importante, c'est qu'avant, vous aviez une adresse, une école. Aujourd'hui, quand les secteurs ont été agrandis, il y avait en gros 25 secteurs et 25 écoles maternelles élémentaires, quoi, en gros. Hein. Et aujourd'hui, dans un même secteur, vous avez 2 écoles, voire 3, voire 4. Voilà. Et la règle d'inscription, c'est on est inscrit dans l'école la plus proche jusqu'à ce qu'il y ait de la place. Puis ensuite, c'est la deuxième école de proximité, mais qui est dans le même secteur. Et enfin, le troisième critère, c'est sur vœu des parents qui choisissent. Mais les deux premiers critères les plus importants, ça reste la proximité et la place dans l'école.
Et le temps que cette nouvelle école soit construite, est-ce qu'il va y avoir un petit moment de tension?
Oui. Effectivement, mais on a des leviers. D'abord, on a un levier important, c'est le partenariat avec l'éducation nationale. C'est-à-dire que quand vous avez des écoles, ou par exemple, vous avez un CP, vous avez 42 élèves de CP et 17 élèves de CE1, ben on a la possibilité, et ça, on le travaille avec les inspecteurs de circonscription et madame la Dazen et monsieur le Dazen adjoint, et on travaille sur, on va faire un CP, puis un CP-CE1. Vous voyez, des classes de double niveau comme ça, parce qu'on ne peut pas ouvrir 2 classes de CP et avoir un CE1 à 17. Deuxième élément, on a fait un état du bâti scolaire. On a encore l'équivalent de 11 classes libres dans les 45 écoles de Poitiers, disséminées là ou là. Troisième chose, c'est qu'on ne va plus accepter les dérogations extérieures de Mignel ou Beauvoir, par exemple, de Saint-Benoît. Sauf cas exceptionnel, mais déjà...
Donc pour les parents qui travaillaient à Poitiers, ils ne pourront plus inscrire leurs enfants à Poitiers.
On ne peut plus recevoir les enfants des familles qui ont choisi d'être domiciliés à l'extérieur. Après, il y a aussi des études temporaires, des possibilités temporaires. Hein, monter un... je ne veux pas que je dise la marque, mais je ne m'en souviens plus.
Oui, bon, en tout cas, des classes temporaires
en préfabriqué.
Des classes temporaires
en préfabriqué, voilà. Et vous m'avez compris. Voilà, donc on a tout un petit tas de leviers qui permettent de tenir, parce qu'en fait, les années de rupture, elles ne sont pas les mêmes sur tous les quartiers. Voilà. Et d'ailleurs, cette sectorisation avec plusieurs écoles, elle se pratiquait déjà avec, par exemple, si vous êtes votre enfant est scolarisé au Pont-Neuf, bah, entre Petit Tour et Pasteur, en fait, vous n'aviez pas une école. Enfin, voilà, vous pouviez choisir entre les deux écoles, les parents étant inscrits la plupart du temps dans l'école de inscrivaient leur enfant dans l'école de proximité. Et l'autre chose qui va changer, c'est qu'avant, vous inscriviez votre enfant et le lendemain, vous aviez la confirmation. Et on ne veut pas que ce soit le premier arrivé, le premier servi. Donc, il va y avoir les inscriptions et il faudra attendre 3 à 4 semaines, un bon mois, que les services étudient les dossiers, remplissent les classes et puissent voir à peu près, voilà, qu'on ne soit pas dans le...
Oui. Voilà, et là pendant les 5-10 ans, du coup, il va y avoir des ajustements, là, ce que vous avez décidé là, puisque c'est des projections, donc il peut y avoir peut-être après...
Exactement, faire de la prospection démographique, c'est pas de l'astrologie, hein, c'est pas effectivement entre les deux scénarios. Voilà, le scénario bas, c'est 250 enfants en plus, le scénario haut, c'est 750 enfants en plus, le scénario moyen, c'est 400 euros, il y a...
400 enfants.
Et c'est 400 enfants, et voilà, on vient de le voir avec... on vient de le voir il y a 5 ans avec la crise Covid, il y a des tas de paramètres qui peuvent changer, mais voilà, l'étude est quand même... prend en compte le développement des AC, l'urbanisme, voilà, le renouvellement aussi... des personnes qui habitent dans les appartements et maisons actuelles. Donc voilà, on n'est pas très loin du réel quand même.
Merci beaucoup Hélène Pommier, adjointe à l'éducation pour la ville de Poitiers, d'être venue nous expliquer donc, cette étude sur la démographie scolaire et la nouvelle sectorisation qui va s'appliquer dès septembre.
Tout
merci
à fait.
Bien.
Merci à vous.
Je vous dis rien pour la musique qui arrive, ça va vous rappeler des souvenirs et ça va lancer notre sujet suivant.
Ça va mieux.
Et on accueille maintenant Raphaëlle Girard, directrice du TAP. Bonjour.
Bonjour Anaïs.
Le Théâtre Auditorium de Poitiers. Sybille Lajoux, vice-présidente de l'Université de Poitiers. Bonjour.
Bonjour.
Et Céline Bergeron qui représente le Centre d'animation de Beaulieu. Bonjour.
Et bonjour.
Merci à toutes les trois d'être là pour le Festival Accor qui aura lieu à nouveau à Poitiers comme chaque année. C'est du 9 au 17 avril. Et alors on peut peut-être faire une petite introduction avec ce qu'on vient d'entendre puisque c'est un spectacle qui est proposé au Centre d'animation de Beaulieu.
Oui, ça s'appelle About Lambada, c'est le collectif S qu'on connaît bien puisqu'on les a déjà accueillis dans le cadre de la saison Beaulieu Danse. C'est une compagnie qu'on aime beaucoup. Ils ont l'habitude de s'intéresser aux cultures populaires notamment, et ce spectacle-là fait en tout cas un rapprochement assez ambitieux entre la chute du mur de Berlin et cette musique qui a été numéro 1 des charts en Allemagne à la même époque. Il va être question de frontières et de rapprochement des corps. Dans un collectif très joyeux, qui est très engagé dans la danse, qui plaît à toutes les générations. Donc, une proposition plutôt ouverte. Et puis, surtout qu'on va prolonger la soirée avec les musiques de l'été dans le hall de Beaulieu. Donc, je pense que ça va être une soirée assez festive.
Un grand moment pour ce festival, effectivement. Alors, Raphaëlle Girard, on fêtait l'anniversaire 30e édition l'année dernière. Là, il faut repartir, on va dire, 31e. Comment vous avez imaginé ça? Est-ce qu'il y a un fil rouge?
Oui, alors d'abord, repartir, c'est assez facile avec les partenaires que nous avons au TAP, à savoir Beaulieu et l'université. Et puis s'inscrire dans l'histoire de ce festival, c'est quand même une ambition qui, moi, me motive et qui était ma motivation première pour mon arrivée à Poitiers, puisque la danse, je viens de là, c'est quelque chose qui me fait vivre cet art-là. Et le fil rouge, alors il ne s'agit pas de faire une édition anniversaire, puisque c'est la 31e édition, c'est la première sous ma direction artistique, et il y a un fil rouge qui s'est imposé au fil de mes rencontres professionnelles et de mes discussions avec mes partenaires autour de trois choses. La pratique amateur, qui est l'essence même de ce festival, créé, je le rappelle, mais Sybille va sûrement en parler, par Isabelle Lamotte, hein, enseignante à l'université. Donc la pratique amateur qui est vraiment mise en valeur, et on peut cette année aller voir tous les spectacles, la grille le rend possible, y compris les spectacles amateurs qui sont au prix de 3 euros, je le rappelle, mais qui ça ne les dévalorise pas. Pour autant, la pratique amateur, des étudiants venus du monde entier, il y a un fil rouge autour de l'engagement politique et des chorégraphes qui parlent du monde. C'est le cas de Maggie Marin avec 2023 qui nous livre, non pas à travers un spectacle de danse, mais plutôt de théâtre. Néanmoins, elle a sa place au festival puisqu'elle est chorégraphe, mais des paroles politiques réelles qui la mettent en colère. C'est le cas de Sama Hawakim, chorégraphe palestinienne, qui dit voilà ce que c'est qu'être palestinienne et grandir et danser alors que les bombes régulièrement continuent à exploser dans mon quotidien. Un spectacle, un duo, musique et danse assez poignant. C'est le cas aussi de About Lambada dont Céline vient de vous parler, et d'autres encore. Un petit fil rouge aussi qui met à l'honneur des artistes en situation de handicap avec deux spectacles, Corps Inouï de Sébastien Laubrand, qui est aussi un portrait, Corps Inouï, le sous-titre Portrait de Karl, Karl étant un danseur en situation de handicap, un très très beau portrait de ce jeune homme autour, avec un acteur, danseur et un musicien au plateau. Et puis une pièce, un de nos coups de cœur de ce festival, Danser ensemble, d'Alice Davazoglou, qui elle-même est en situation de handicap puisqu'elle est trisomique. Elle était danseuse jusqu'alors et là, elle a décidé, maintenant c'est moi la chorégraphe et vous, mes 10 chorégraphes que j'ai choisis, vous allez devenir mes interprètes. Donc elle a choisi exprès des danseurs chorégraphes, donc dont certains qui sont connus de Poitiers, Gaël Bourges, Michael Felippo, Alban Laurent Richard, Bérénice Legrand, Lou Cantor, voilà, des chorégraphes confirmés qui se prêtent au jeu d'être les interprètes de cette nouvelle chorégraphe qui se trouve être trisomique, mais qui n'en est pas moins une chorégraphe formidable dans un spectacle dansé ensemble qui est à voir absolument au centre d'animation de Beaulieu.
Alors ce festival, c'est aussi des propositions professionnelles, c'est aussi un festival professionnel et un festival où les étudiants et étudiantes ont aussi toute leur part et apprennent lors de ce festival.
Oui, tout à fait. C'est vrai que pour l'université, le partenariat avec la scène historique de la danse, qui est le centre de Beaulieu, et la scène nationale, le TAP, avec la nouvelle énergie apportée par Raphaël Girard et sa manière de concevoir la place des amateurs comme absolument centrale, comme elle vient de le rappeler, au cœur du festival, c'est vraiment une aubaine incroyable de pouvoir, cette année encore, partir sur ce temps très festif, un festival, j'aime à le dire, c'est d'abord la lutte contre la morosité, et ça ne peut pas dire se mettre dans une bulle, puisque avec les thématiques qui ont été rappelées, on voit bien comment on va s'inscrire au cœur des enjeux sociétaux qui résonnent tellement pour nos étudiantes et étudiants en ce moment. Donc voilà, et ce festival, c'est la possibilité aussi bien pour des étudiantes et étudiants qui envisagent un parcours professionnalisant de trouver à rencontrer, à se nourrir et à progresser dans leur découverte de ce milieu particulier. Mais c'est aussi une grande fête pour tous les amateurs, les amatrices qui sont plus éloignés de la danse contemporaine, de venir se familiariser. Grâce d'ailleurs à un partenariat avec Radio Pulsar, puisqu'il y a par exemple un petit groupe qui va être initié à des ateliers podcast et qui vont pour un grand nombre d'entre elles d'entre eux découvrir leur première proposition artistique. Mais le public aura la possibilité de venir rencontrer aussi tous les festivaliers, toutes les festivalières, dès le 9 avril, puisqu'on aura pour la première fois l'ouverture du festival sur le campus. Donc pour nous, c'est un moment très important. On sera évidemment les trois organisateurs du festival, mais ça sera un temps de rencontre aussi entre les amateurs, les amatrices et le public. On espère cela, en tout cas, on l'a construit comme ça. Et il y a la possibilité pour le public poitevin de découvrir aussi, dans l'espace public, une pièce du solstice des animaux, donc en accès libre, avec une complice du Festival Accor de longue date, Claire Filmon, qui a été à l'origine de la venue des universités étrangères à Poitiers. Isabelle Lamotte aime à lui rendre aussi cet hommage-là. Donc voilà, c'est des temps qui permettront au public de venir aussi, sur des temps gratuits, rencontrer tout ce qui fait l'ADN du festival.
Avec, comme chaque année, l'apothéose de la rencontre entre professionnels et amateurs, c'est le spectacle de l'atelier de recherche chorégraphique qui, cette année, sera chorégraphié par un chorégraphe de Bordeaux, Michel Schwetzer, de la compagnie La Coma. Ça s'appelle Vivant, ce sera le 14 avril, avec ses 30 étudiants de Poitiers inscrits dans l'atelier de recherche chorégraphique d'Isabelle Lamotte. Il présentera aussi sa dernière création, Dogs, qui met en scène 5 jeunes danseurs et qui l'interrogent sur leur nécessité à danser.
D'ailleurs, pour parler de la danse, cet atelier de podcast est avec Stéphanie Pichon, qui est donc une journaliste spécialisée culture et danse. Et donc, vous allez voir des spectacles, vous allez pouvoir faire des chroniques radio. Et il reste encore une ou deux places, si jamais vous êtes étudiante ou étudiant à Poitiers. Alors, ces rendez-vous festifs, certains sont gratuits d'ailleurs, c'est justement votre... envie aussi d'aller chercher les gens, que ce festival ne soit pas élitiste. C'est vrai que la danse contemporaine, vous le savez, au sein d'Animation de Beaulieu, c'est toujours compliqué de la faire s'ouvrir aux gens alors qu'elle est normalement accessible.
Oui, historiquement, c'est quand même un festival qui est là aussi pour rassembler vraiment. Enfin, je pense que ça fait vraiment partie de son ADN, fédérer et ouvrir le plus possible à toutes les générations, à tous les publics. C'est aussi dans cette dynamique-là que le centre de Beaulieu s'inscrit d'ailleurs, et il inscrit aussi son action culturelle. Effectivement, donc c'est aussi proposer des choses gratuites, accessibles dans l'espace public. Je pense notamment à cet échauffement qui sera proposé dans le quartier de Beaulieu sur la place des Templiers par une danseuse qu'on connaît bien à Poitiers qui est Julie Dossavy. L'idée c'est vraiment de venir comme on est et puis de se mettre en mouvement avec Julie, de se laisser emporter par la danse, par l'énergie, et c'est de se dire aussi qu'on est tous danseurs et danseuses. C'est aussi ça ce festival, c'est vraiment plonger dans la danse sans limite, de façon simple et immédiate. Je pense que c'est aussi ce message-là qu'on a envie de transmettre, en tout cas.
Bon, allez, dernier, oui.
Oui, j'allais rebondir sur ce que Céline vient de dire en évoquant la proposition de Mouton Noir aussi, puisque c'est une proposition qui parle de foot, mais qui va se jouer à l'extérieur, que ce soit donc devant la maison des trois quartiers le dimanche ou le lundi sur le parvis de la maison des étudiants sur le campus. Et c'est aussi une manière de s'adresser à un public qui n'ose pas forcément entrer dans une salle, mais qui après pourra se sentir autorisé en ayant apprécié la proposition.
Merci en tout cas pour toutes ces propositions. Une petite dernière chacune, parce que le temps passe vite, mais je vous en laisse une. Allez, Raphaël Girard, on commence par vous. Vous détestez quand je demande ça.
Non, pas du tout.
Non,
je suis vraiment contente de pouvoir citer notre artiste associé. Nos artistes associés qui sont Rebecca Journeau, jeune chorégraphe, et Mathieu Bonafou, son complice créateur sonore, qui vont proposer 4 propositions. L'épouse, la ménagère de Solo, un diptyque sur la femme. Les amours de la pieuvre, une performance assez surprenante qui aura lieu au confort moderne par deux fois. Et puis un bruitage en direct au cinéma, ce qui me permet de dire que c'est le cinéma et la danse ont aussi des choses à raconter, donc au TAP Cinéma, un bruitage du film qui s'appelle Les amours de la pieuvre de Jean Painlevé, un documentaire animalier. Voilà, des choses curieuses. Venez découvrir Rebecca Journeau, elle n'est jamais passée à Poitiers.
Céline Bergeron ?
Moi, je veux juste rappeler cette belle clôture à venir qui sera le grand jeté de Sylvia Gribaudy. Qui va être une clôture incroyable avec une énergie fulgurante. Ils sont, je ne sais plus combien au plateau, une dizaine. Des jeunes évidemment virtuoses, mais ça va être magnifique, je pense. Oui, et très drôle. Et aussi très accessible aussi.
Et Sylvie Lajus ?
Alors j'hésitais, mais j'aimerais faire un focus sur une proposition qui n'est pas vraiment un spectacle de danse, mais qui est la projection d'un court-métrage « Et je danse » d'Yves Gaonac du film À retordre, qui permet pour celles et ceux qui seraient quand même curieux de savoir ce que la danse peut apporter à nos étudiantes et étudiants, de venir voir ce qui s'y joue. Donc la projection aura lieu à la bibliothèque universitaire La Ruche, c'est le A2 pour notre jargon. Et donc, à 20h30, c'est ouvert à tout le public, c'est gratuit et ça permet vraiment, je crois, de comprendre cette idée de réussite plurielle qui nous tient à cœur à l'Université de Poitiers.
Et le festival se terminera par Accord Party et Ludmilla Stardust, qui fait partie maintenant de nos DJ d'ailleurs Radio Pulsar. Donc on la salue et vous pourrez faire la fête avec elle jeudi 17 avril à partir de 22h30 au grand foyer du TAP. Merci beaucoup à toutes les trois d'être venues nous parler de ce festival. Ça commence le 9 avril. Ne ratez pas ça. Sur Pulsar, à 18h, c'est Alasso qui reçoit le CIDFF. À 19h, c'est Slam à tout va, de l'impro, de la poésie, du slam. 20h, Pétale de Sakura. 21h, Culture Dub avec sa meilleure playlist. Et 23h, Novorama. Merci Yann pour la réalisation technique. C'est organisé par l'Académie de Poitiers et la Fédération nationale des chorales scolaires. Le premier festival des arts à l'école débute demain. Il y aura des groupes repérés par les Franco de La Rochelle. Voici par exemple Amalia, c'est une artiste engagée pour la cause LGBT. Je vous la fais découvrir. Bon après-midi en musique, à demain.
Il est minuit et les angoisses chantent. Tant qu'elles sont là, je serai inspirée. Et comme toi, je l'attends, cette danse avec celle qui viendra me sauver. Mais tant pis, on a déjà passé notre chance. Elle était là près de nous, elle était prête à tout, mais on a tout gâché. Parce que la peur nous hante, parce qu'il y a trop de souffrance, parce qu'on a tellement de bagages de manque qu'on n'a même plus envie de voyager. Donc on séduit, puis on détruit, et on accuse les autres d'avoir été si pauvres dans leurs idées pour régler nos soucis. Pas vrai? Donc on profite du célibat, pourtant on rêve de celui-là. Tu sais là où tout s'arrêtait quand tu sentais ses bras.
Allez, oublions vite ce qui nous a fait du mal. Même si la colère s'exprime à chaque pas que l'on fait. Pas le droit de verser de larmes invulnérables. Ce qu'on ressent vaut mieux tout enterrer. Peur d'être jugé, c'est pas le rire, mais le sourire la plus grosse arme. On n'a pas de plan contre les plaies. Plaisanter pour aller mieux, vu que la sincérité pour eux, c'est ennuyeux ou périlleux. Mais tu veux être une artiste, alors choisis ton combat. Car dans ce monde-là, même les plus beaux titres ne suffisent pas. On voulait te parler d'amour, de cette fille que tu as tant aimée, que tu as tant blessée jusqu'à ce qu'elle te déteste. T'es montée dans tes tours par peur qu'elle te délaisse. Dommage, t'as montré le pire de ce que t'étais. Aujourd'hui t'écris des chansons pour qu'elle revienne. Aujourd'hui t'écris des chansons pour qu'elle revienne. Mais je vais plus me mentir, je vais plus m'éloigner, je vais plus endormir les peines que j'ai laissées. Et mon cœur a grandi.